Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Si l'Europe est divisée, elle l'est plus que tout sur la question du chômage. Les statistiques ne laissent pas de doute. Entre le chiffre de 2,1% de sans-emploi pour la Tchéquie et de 18,5% pour la Grèce, on peut dire que les travailleurs européens ne sont pas égaux face au travail. Terre de contraste aujourd'hui dans Accent d'Europe, en commençant par la Turquie, à la périphérie de l'UE. Sur le front économique, rien ne va plus pour le président Erdogan. Le pays est en récession. Le taux de chômage a grimpé à 14,7%, 4 points de plus par rapport à l'année dernière. Pour les jeunes, on atteint même 13% de sans-emploi pour les jeunes diplômés, jusqu'alors relativement épargnés. Reportage à Istanbul, Dan Andlauer.
Il est 15h, un lundi, et Bedrin Urdoğlu tue le temps chez le barbier. Ce Turc de 23 ans devrait être sur un chantier, en train de mettre à profit ses compétences d'ingénieur électrique. Au lieu de ça, le jeune homme est au chômage depuis presque 3 mois. Bedri jette souvent un œil au site de recherche d'emploi où il a publié son CV. Sa boîte de messages reste désespérément vide.
C'est là qu'on se rend compte de l'état de l'économie. J'ai contacté presque toutes les entreprises du secteur et j'ai reçu 0 réponse, même pas une négative. Avant, quand je présentais ma candidature, j'avais au moins une réponse du genre « Merci pour votre intérêt ». Là, sur 100 mails envoyés, j'ai quasiment reçu aucune réponse. Je pense pas trouver de travail de sitôt.
Bedri sait bien qu'il n'est pas seul. Son pays traverse une période de récession économique et le taux de chômage bat des records. Près de 4 700 000 Turcs n'ont pas de travail, soit 1 200 000 de plus qu'il y a un an. Cela représente presque 15% de la population active. Parmi ces chômeurs, plus d'un quart a moins de 24 ans, un chiffre en très forte hausse depuis un an. Et parmi ces jeunes chômeurs, ils sont de plus en plus nombreux à être passés sur les bancs de l'université. Près de 13% des Turcs en recherche d'emploi ont suivi des études supérieures. Commerce et management, enseignement et ingénieur, telles sont les branches qui comptent le plus de jeunes diplômés sans travail. L'économiste Gökçe Uysal, enseignante à l'université Bahçeşehir d'Istanbul, souligne d'abord la forte augmentation du nombre de jeunes diplômés ces dernières années en Turquie.
Le nombre d'universités a énormément augmenté. Beaucoup d'universités ont notamment été créées dans des villes qui n'en comptaient aucune jusqu'ici. Donc beaucoup de jeunes qui ne rejoignaient pas l'enseignement supérieur pour des raisons géographiques, je pense notamment aux jeunes femmes, ont eu la possibilité de le faire. Par ailleurs, il y a aussi une hausse de la demande liée au fait que les diplômés reçoivent de meilleurs salaires et qu'ils ont moins de risques d'être confrontés au chômage.
En effet, statistiquement, les jeunes diplômés turcs ont moins de risques de se retrouver sans emploi que leurs congénères non diplômés. Il n'empêche qu'en 2018, 951 000 d'entre eux n'avaient pas de travail et que ce chiffre augmente. Gökçe Uysal y voit plusieurs raisons. Évidemment, la conjoncture économique complique les recherches d'emploi des Turcs les plus qualifiés. Mais pour elle, il y a d'autres explications qui ne sont pas forcément liées à l'état de l'économie.
Il est certain que plus vous avez d'université, plus l'avantage comparatif d'être diplômé diminue. Et puis, il est toujours plus difficile pour un jeune, diplômé ou pas, d'entrer sur le marché du travail. Enfin, par rapport à un jeune qui n'est pas allé au-delà du lycée et sera souvent heureux de trouver un travail au salaire minimum dans les conditions actuelles, les jeunes diplômés ont tendance à accorder plus de temps à leur recherche d'emploi parce qu'ils savent qu'ils ont potentiellement plus d'options.
L'économiste pointe du doigt un dernier paramètre.
Ce chômage croissant peut aussi signaler une baisse de la qualité des études supérieures en Turquie. Mais c'est une donnée extrêmement difficile à mesurer. On sait seulement que dans l'enquête PIAAC réalisée par l'OCDE qui évalue la compétence des adultes dans le monde du travail, la Turquie est très mal classée. Mais cela n'est pas une donnée suffisante à elle seule.
Bedri, l'ingénieur électrique, a reçu son diplôme d'une prestigieuse université privée. En principe, les entreprises devraient s'arracher son CV. Mais presque un an après son diplôme, le jeune homme est contraint de travailler comme livreur pour boucler ses fins de mois. Lassé d'attendre, il a pris une décision, s'expatrier en Australie. Un choix à contre-cœur.
J'ai étudié pendant 5 ans pour décrocher ce diplôme. Je préfère travailler à l'étranger, dans mon domaine de compétences, plutôt que de faire quelque chose ici qui n'aura rien à voir. J'ai hésité parce que c'est mon pays, j'y ai ma famille, mes amis. Mais sans travail, j'ai pas le choix, je dois partir. Et j'imagine que c'est ça qu'on appelle la fuite des cerveaux.
Bedri n'a pas beaucoup d'espoir pour l'avenir de son pays qui risque de s'enfoncer dans la crise à mesure que le président, Recep Tayyip Erdogan, durcit ses politiques sur la scène nationale et internationale. La décision récente du Haut Conseil électoral d'annuler, à sa demande, les municipales d'Istanbul remportées par l'opposition ne présage rien de bon pour la démocratie turque et son économie. Le jeune diplômé est amer.
J'ai plus trop d'espoir, surtout quand je compare la Turquie à d'autres pays européens ou occidentaux. C'est le jour et la nuit. Notre pouvoir d'achat est de plus en plus faible, ridiculement faible. Il n'y a pas grand-chose qui puisse convaincre les jeunes comme moi de rester. Je me demande vraiment comment les autorités espèrent nous garder en Turquie.
Selon les dernières données disponibles, près de 254 000 Turcs ont émigré en 2017 pour des raisons liées, je cite, à l'économie, la politique, le social ou la culture. Soit une hausse de 43% par rapport à 2016. Sans surprise, ceux qui partent sont souvent de jeunes citadins dotés d'un bon niveau d'éducation.
Et le paradis des jeunes diplômés existe, il s'appelle la Tchéquie. Situation de plein emploi dans le pays, un peu plus de 2% de chômage, si bien que les nouveaux arrivants sur le marché du travail ne sont pas seulement bienvenus, ils sont âprement courtisés. À Prague, Alexis Rosenzweig.
Les temps sont durs pour les départements des ressources humaines dans les entreprises tchèques. Il faut se battre pour trouver des employés. Le combat se livre jusque sur les campus des universités et des grandes écoles, là où les firmes viennent faire leur promotion auprès des jeunes étudiants, pas encore diplômés, mais déjà très convoités. Moins de 3% de chômage à l'échelle nationale et même moins de 2% dans la capitale Prague. La situation est telle que les entreprises sont contraintes de tout faire pour séduire, tandis que les candidats n'ont que l'embarras du choix. Le salaire, bien sûr, reste le principal critère, mais il ne suffit plus. Désormais, il faut un paquet convaincant, composé également d'avantages en nature, comme la voiture de service, le transport gratuit ou la possibilité de travailler depuis son domicile. La concurrence est d'autant plus rude que les grands groupes internationaux continuent de s'installer en Tchéquie. Dans l'industrie pharmaceutique, un des grands acteurs vient d'annoncer qu'il allait offrir à tous ses salariés la possibilité de prendre un congé parental rémunéré de 14 semaines, aux nouveaux pères aussi, alors que la loi tchèque ne leur permet pour l'instant de ne prendre qu'une seule semaine. La pénurie de main-d'œuvre n'a pas que des conséquences positives, elle menacerait désormais la croissance de l'économie tchèque. En attendant, tous les secteurs sont concernés, l'armée tchèque a elle aussi du mal à recruter. Du coup, elle organise cette semaine à Prague une grosse opération séduction dans un centre commercial.
Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri, ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra.
Réduire les inégalités entre régions pauvres et riches au sein de l'Europe, c'est tout l'objet des fonds de cohésion européens. 352 milliards d'euros, un tiers du budget européen pour la période 2014-2020, y ont été consacrés. Des pays comme la République tchèque en ont amplement profité, si bien que dans d'autres régions, comme le sud de l'Italie, on réclame un rééquilibrage. Comme dans le Mezzogiorno, où le taux de chômage est de 20% contre 7% au nord de l'Italie. Résultat, les jeunes émigrent. Reportage à Rome de Sandro Calderon.
Quand vous demandez à un jeune napolitain s'il connaît quelqu'un qui a quitté la ville, la réponse est toujours à peu près la même.
Molti amici sono partiti per Londra, in Germania, in Spagna.
Par choix ou par nécessité, des dizaines de milliers de jeunes sont partis en quête d'un avenir meilleur, loin du Mezzogiorno, la moitié sud de l'Italie.
In America, Miami.
Gennaro a 27 ans.
Ci troviamo Borgo Vergine.
Son quotidien, c'est le quartier populaire de Sanità. Gennaro est maraîcher.
Si.
L'échoppe est à moi. Elle a appartenu à mon papy, puis à mon père. Maintenant, elle est à moi.
Pour beaucoup de jeunes napolitains, c'est le règne de la débrouille. Petit boulot, travail au noir pour un salaire de misère.
Bah, tu le sais, tu dois travailler pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup d'heures, pour pas grand-chose.
Donc il y a beaucoup de jeunes que tu connais, par exemple, qui ne travaillent pas.
Oui, je connais les bons, je connais le bon et le mauvais.
Le mal, sous-entendu la mafia locale. Donner un emploi aux jeunes pour éviter qu'ils ne partent, c'est un des défis majeurs du maire de Naples, Luigi De Magistris. Indépendant, homme de gauche, à la tête de la ville depuis 6 ans, il défend un bilan positif dans un contexte difficile.
Naples a beau être une ville pauvre économiquement parlant et ses quais ont beau être vides, Naples a été la ville qui a connu la plus grande croissance culturelle et touristique l'année dernière. Troisième ville en matière de création de jeunes entreprises, c'est la ville la plus recherchée par le secteur du cinéma et pour les événements sportifs, ce qui veut dire que Naples n'est plus la ville des poubelles, de la saleté, de la corruption. Alors, il y a toujours des problèmes, mais c'est désormais une ville pleine d'énergie, de richesse humaine, pleine de vivacité. L'humain est davantage protagoniste de la révolution napolitaine.
Un tableau trop parfait ? Alors c'est vrai que le tourisme est en plein développement. Des bed and breakfast, des restos, des bars pullulent dans le centre historique.
Libri, un po' di cartoleria, gadgets, des regalo.
Anna, 28 ans, et Andrea, 32 ans, ont ouvert un bar-librairie dans le quartier d'Udouro.
Moi, j'ai travaillé dans des librairies. Andrea, lui, il est passionné par le monde des bars. Et on a voulu unir nos deux passions. On a créé un lieu, pas seulement de culture, mais aussi de plaisir.
Pour lancer leur petite entreprise, ce jeune couple a bénéficié d'un prêt public avantageux destiné à garder les jeunes dans le sud de l'Italie.
L'application s'appelle Authentico.
Naples compte aussi sur les nouvelles technologies pour dynamiser son économie. Pino Coletti a créé une application qui reconnaît les faux produits italiens et il salue l'arrivée récemment de grandes sociétés internationales dans sa ville.
Apple a ouvert une académie à Naples. C'est le seul exemple en Europe parce qu'il a trouvé une université avec des étudiants brillants et a trouvé un terrain fertile pour développer l'académie Apple. Et ce n'est pas tout. Après Apple, il y a eu Deloitte et après Deloitte, il y a Cisco avec la Cisco University. Il y a là une ébullition très importante pour le développement et ça devient une source d'emploi.
Una fonte di lavoro per l'autoimpiego in prima.
Le redéploiement économique de Naples prendra encore du temps. Malgré cela, certains jeunes comptent bien y rester, comme Marco, étudiant en archéologie, qui est confiant quant au devenir de sa cité.
Naples n'est pas une ville qui n'a rien à offrir. C'est une ville en éternel devenir, une ville qui se transforme jour après jour, une ville qui connaît une ébullition culturelle constante et inarrêtable. Mon futur, je ne le vois pas nécessairement à l'étranger.
Et en Espagne, le taux de chômage est un des pires de l'Union européenne. Deuxième sur la liste en partant du bas, après la Grèce. Et malgré une nette amélioration, les jeunes restent les grands perdants avec 33% de chômage et une grande précarité pour ceux qui travaillent. À Madrid, François Musso.
En 6 ans, les moins de 25 ans ont vu le taux de chômage passer d'un vertigineux 55% à 33%, contre 17% à l'échelle de toute la population. C'est une baisse sensible, certes, mais un jeune sur trois sans activité, cela demeure énorme, surtout lorsqu'on sait que l'immense majorité de ceux qui travaillent sont précaires. Les contrats à durée indéterminée n'existent qu'au compte-gouttes et sont l'apanage d'une infime minorité. Les sociologues rappellent que cette précarité existe en Espagne depuis longtemps, 1984 exactement, et que le marché du travail perpétue ce mal endémique. Pour citer le sociologue Enrique Gil Calvo, c'est un fléau très difficile à combattre. En 2012, une nouvelle législation du travail a dynamisé le marché de l'emploi, mais a renforcé cette précarité. Déception, désenchantement, départ des diplômés vers l'étranger dans des pays où les contrats sont plus longs et les salaires plus élevés. Ce sont les maîtres mots qui définissent le rapport des moins de 25 ans avec le travail. L'actuel chef du gouvernement Pedro Sanchez disait que cette désaffection va contribuer, si rien n'est fait, non seulement au vieillissement de la population, car plus de départs à l'étranger et moins d'enfants, mais aussi à un affaiblissement de la démocratie.
Avec l'arrivée des nouveaux régimes populistes, qu'il s'agisse de l'Italie, de la Hongrie ou de la Pologne, ne parlez plus de démocratie, mais de peuplocratie. Tel est le néologisme créé par deux professeurs de sciences politiques, l'italien Ilvo Diamanti et le français Marc Lazare. Dans leur livre, justement intitulé « Peuplocratie », publié chez Gallimard, ils expliquent en quoi ces régimes représentent une version tronquée de la démocratie. Marc Lazare, au micro de Catherine Roland.
les populismes aujourd'hui sont en train de transformer complètement les fondements de la démocratie libérale et représentative. Alors vous allez me dire, la démocratie c'est le pouvoir selon la fameuse formule du peuple par le peuple pour le peuple. Oui, effectivement, c'est cette conception moderne de la démocratie, mais avec tout un système de contre-pouvoir. Et la peuplocratie, c'est cette dynamique qui vient justement de la montée en puissance des populistes qui fait que ils affirment que la souveraineté du peuple est sans limite, et si elle est sans limite, ça veut dire qu'on peut se passer effectivement de tout ce qui est quorum intermédiaire, et ce qu'ils instaurent progressivement, c'est ce qu'on appelle à travers la peuplocratie une démocratie immédiate, et le tout avec cette formidable caisse de résonance qui est la grande révolution technologique qui a bouleversé le rapport des citoyens à la politique, qui est Internet et
les réseaux sociaux. Voilà. C'est une nouvelle forme de populisme qui est vraiment ancrée, elle, dans la modernité.
Il faut rappeler que les populismes ne sont pas nés à partir des années 2000. Leur histoire remonte au 19e siècle. Mais il y a deux grandes différences avec les populismes d'antan. La première, c'est qu'effectivement, par définition, ils bénéficient de cette révolution technologique. Et puis la deuxième grande transformation, et elle est fondamentale, c'est que classiquement, les populistes étaient hostiles à la démocratie. Ils étaient pour des régimes autoritaires. Or, aujourd'hui, les populistes ont complètement inversé ce qu'on peut appeler leur logiciel. C'est qu'ils se présentent comme les meilleurs défenseurs de la démocratie. Ils ont un argument terrible qui percute les partis traditionnels en disant « Regardez, nous, on n'a pas peur du peuple, et donc consultons-le en permanence ».
Ils idolâtrent le peuple, hein, c'est ce que j'ai lu dans votre ouvrage. Ils sont les vrais démocrates, mais est-ce que ce n'est pas finalement un faux-né ?
C'est évidemment toute la question. Ils sont, je crois, à la croisée de deux processus, de cette volonté de rénover la démocratie. C'est une des raisons, c'est pas l'unique, mais une des raisons de leur succès. Et en même temps, quand ils sont au pouvoir, on voit qu'ils peuvent menacer les libertés. Et on en a un exemple actuellement en Italie avec le gouvernement du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, et qui par exemple attaque systématiquement les experts du ministère de l'économie, les magistrats, qui menacent parfois la presse, qui placent ces hommes encore plus que les gouvernements précédents à des postes stratégiques. Et puis on a un autre exemple, une autre étape, c'est ce qui se passe en Hongrie ou en Pologne par exemple, c'est-à-dire ce qu'on appelle de plus en plus des démocraties illibérales ou des démocratures, contraction entre démocratie et dictature.
Mais est-ce que cela veut dire que le populisme aujourd'hui est constitutif de la démocratie, qu'on n'a pas le choix, il faut pratiquer la politique avec les façons des populistes ?
C'est en ce sens-là qu'ils attaquent les fondements classiques de la démocratie libérale et représentative. Et on prend deux exemples, Emmanuel Macron qui est évidemment sur le fond et tout sauf un populiste, mais en même temps, c'est le cas de le dire, pour gagner, il a recouru à un style populiste en se présentant comme le candidat anti-système, alors qu'il a été formé justement à Sciences Po, ensuite à l'École nationale d'administration, qu'il a travaillé pour la Banque Rothschild, qu'il a été avec François Hollande à l'Élysée. Donc il n'y avait rien de quelqu'un anti-système, mais il a eu besoin de se présenter comme anti-système. Et puis on prend un autre exemple en Italie, c'est Matteo Renzi qui a été président du Conseil à partir de 2014, qui était quelqu'un qui voulait combattre justement le mouvement 5 étoiles qui à l'époque était le principal populisme en Italie et qui a recouru aussi au même style populiste.
Comment est-ce que vous expliquez cette vague de populisme qui est en train de déferler sur le monde entier et l'Europe en particulier ?
Je crois qu'il y en a trois principales. La première, c'est évidemment la crise sociale.
Depuis 2008.
Exactement, depuis 2008 et qui a frappé beaucoup de pays, notamment de l'Europe du Sud. Alors en même temps, si on ne retient que l'explication sociale, je crois qu'on fait une erreur, parce qu'il y a des pays où, en gros, la situation économique et sociale se porte beaucoup mieux.
Oui, en Pologne, par exemple, il y a une vraie croissance.
En République tchèque, dans les pays de l'Europe du Nord, en Scandinavie, la deuxième grande explication, c'est l'explication politique, c'est-à-dire la défiance à l'égard des institutions, des partis politiques traditionnels, de la classe politique. Puis la troisième explication est d'ordre culturel. Moi, j'hésite à employer le mot identitaire, mais culturel, c'est-à-dire c'est cette interrogation qui taraude maintenant les différents peuples européens pour savoir qu'est-ce qu'on est exactement. Et là vient la question de l'immigration. Parce que actuellement, l'Europe vit une crise des deux modèles d'intégration de l'immigration. Les deux modèles qui avaient été jusqu'ici fonctionnels. D'une part, le modèle républicain à la française, qui est une exception en Europe, et d'autre part, le modèle multiculturel.
Oui, plutôt anglo-saxon. Oui.
Exactement, et qui est aujourd'hui remis en cause.
Peuplocratie, la métamorphose des démocraties de Marc Lazare et Ilvo Diamantier, publié chez Gallimard. Accent d'Europe était réalisé par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast. À demain.